Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Salut Mathilde.
Salut Léa, ça va?
Ça va et toi?
Ouais.
Désolée, ah, j'ai si, un petit bon. Problème de... c'est moi, je suis désolée, en fait, j'ai un problème avec mes écouteurs. C'est trop compliqué, la technologie, pour moi. Tu vois, j'ai voulu investir dans les AirPods, qu'on m'a offert, d'ailleurs. Et puis, finalement, bah, voilà, je peux pas m'en servir parce que c'est trop compliqué. Comment vas-tu?
Mais du coup, t'as le son quand même, ça va, tu nous entends.
Mais du coup, j'ai le son quand même, ouais. C'est pas trop gênant, t'entends bien, toi?
Ah non, je t'entends parfaitement bien. Ça va et toi?
Cool, ça va, merci, ouais. Je vois qu'on a du monde, c'est sympa. On avait pris un rendez-vous pour ce soir. Alors, quoi de neuf à l'Assemblée nationale, surtout, c'est ça qui va nous intéresser. Il paraît que tu as une grande actualité là, à partager avec nous.
Alors, quoi de neuf à l'Assemblée? Alors, il y a deux choses à l'Assemblée. La première qui a débuté aujourd'hui, c'est la commission d'enquête sur l'eau. Parce que en fait, à l'Assemblée, une fois par an, on a le droit de choisir une commission d'enquête. Seulement une fois par an, mais une commission d'enquête, c'est un truc important parce que vous avez tout le monde qui défile devant vous. Quand vous faites une invitation, les gens sont obligés de venir. Sinon, ils ont une amende ou de la prison ou quelqu'un de la force publique qui vient les chercher pour les amener devant nous. Ils doivent prêter serment quand ils commencent à témoigner devant la commission d'enquête. Et s'ils ne disent pas la vérité, eh bien, on peut les poursuivre ensuite pour parjure. Et une commission d'enquête, en plus, a le pouvoir d'aller chercher des documents directement dans l'administration ou dans les ministères. Donc, d'accord. Une commission d'enquête, c'est quand même... il y a 30 députés dedans, et c'est quand même un
bon
sujet
moyen, quoi.
Voilà, sur lequel on peut creuser, on peut vraiment investiguer les choses. Et nous, on a choisi la question de l'eau. Alors, l'eau, pour plein de gens, ça paraît naturel, parce qu'on l'a au robinet, parce qu'on prend sa douche, parce que je ne sais quoi. Mais en fait, l'eau est aujourd'hui en danger pour deux raisons. D'abord, dans sa qualité, parce que le modèle agricole qu'on a, notamment, met des pesticides à plein d'endroits, des industries qui vont polluer à tel point que… Alors nous, on l'a moins en ville, mais à tel point que il y a des villages en France à qui l'été, en fait, on amène par camion des bouteilles d'eau parce que ils n'ont plus accès à une eau potable ou en tout cas d'assez bonne qualité pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, la deuxième des choses, c'est que, en fait, l'eau, c'est ce que Goldman Sachs, donc le banquier, avait appelé l'or bleu du 21e siècle. Donc, ça aiguise les appétits des multinationales. Et donc, notamment, on a des Coca-Cola, des Nestlé, des Danone, des Perrier, qui vont pomper directement dans la nappe phréatique. Et qui en fait pompent tellement, déjà il n'y a pas assez de contrôle, donc en fait c'est eux-mêmes qui déclarent en fait ce qu'ils pompent, donc ce qui est quand même un souci. Et on s'est aperçu qu'à certains endroits, notamment à Vittel, eh bien Nestlé pompait plus que ce qu'il disait, à tel point que l'été les habitants n'ont plus d'eau au robinet, mais que par contre eux ils continuent d'exporter, parce qu'en plus ils exportent leurs bouteilles en plastique. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le dernier aspect qui est un aspect quand même très important sur lequel on va aussi investiguer. C'est qu'il y a des batailles dans plein de villes en ce moment pour savoir si l'eau est gérée par du privé, par des grandes multinationales comme Veolia, comme Suez, comme La Sorf, ou si l'eau est gérée en régie publique avec une gestion citoyenne, transparente, démocratique. Et où notamment, c'est la Cour des comptes. Alors, ce n'est pas l'Officine de la France insoumise. C'est la Cour des comptes qui a montré que c'était entre 10 et 25% moins cher quand c'était en régie publique pour les gens en termes de facture, parce que vous ne payez pas les dividendes des actionnaires, quoi.
Ouais,
donc, il y a des enjeux démocratiques et puis de gaspillage qui sont très forts. Et je vais terminer là-dessus parce que ça, c'est un point qui nous tient à cœur dans la commission d'enquête. C'est que, en fait, comme il y a eu du sous-investissement partout, parce qu'eux, ils s'intéressent aux profits à court terme, ben, du coup, dans les, y a, dans les canalisations, ils n'ont pas entretenu les canalisations. Et donc, on a des fuites. On estime qu'entre 20% en métropole et jusqu'à 60% de l'eau potabilisée, eh bien, est gaspillé dans des fuites parce qu'ils n'ont pas assez investi. Donc, c'est vraiment avec un gaspillage énorme et en plus payé sur la facture des usagers. Donc, c'est vraiment des gros scandales. Donc, on va faire venir les méchants. Et j'espère qu'on aura une commission d'enquête qui aidera à faire bouger des choses. Donc, ça, c'est la première actualité.
Super intéressant. Petite question, si ça ne dérange pas Mathilde, parce que ça, ça m'intéresse particulièrement. J'imagine qu'il y a aussi un enjeu sur la question de la propriété. À qui appartient l'eau ?
Exactement, exactement. C'est une vraie question. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va lancer une campagne sur cette question-là pour parler de la propriété collective de l'eau. Parce que je crois que c'est important de rappeler que l'eau n'appartient à personne. C'est l'affaire de tout le monde et des êtres humains, évidemment. C'est un commun des êtres humains, mais aussi de l'ensemble du vivant parce que, bah, bien évidemment, tous les êtres vivants, en fait, l'eau est partout. Et pour l'être humain, bon, bah, c'est simple.
C'est scandaleux.
Trois jours sans eau et on est mort.
Ouais. Du coup, c'est assez scandaleux que des entreprises privées, finalement, se l'accaparent pour la revendre.
Exactement. Bah d'ailleurs, notre commission d'enquête s'appelle commission d'enquête sur la mainmise, donc la main basse des intérêts privés sur la ressource en eau et ses conséquences. Et nous, une des choses pour lesquelles on milite, c'est que soit inscrit dans la Constitution, donc dans la règle de jeu commune, le fait que l'eau est effectivement un commun et donc qu'à ce titre, comme il est indispensable à la vie et au vivant, eh bien qu'il ne peut pas être marchandisé.
Bah,
ça, c'est une des choses sur lesquelles... Et notamment, pour peut-être terminer sur cette question-là, pour avoir une petite pensée pour celles et ceux qui sont en Outre-mer, nous, on a cette bataille de l'eau sur plein d'aspects. Il y a plein de batailles à des endroits. Mais en Outre-mer, c'est encore un stade au-dessus. Pour vous dire, par exemple, en Guadeloupe, il y a 44 écoles qui ont dû fermer depuis la rentrée à un moment ou à un autre. Pas parce que vos enfants, bon, bah, pas parce qu'il manque le prof, pas parce que, bon, ce qui est déjà un problème de moyens de l'éducation nationale, mais parce qu'il n'y a pas d'eau dans l'école. Et par exemple, une maman seule avec ses enfants me racontait que pour Noël, elle a eu la joyeuse surprise de recevoir sa facture d'eau 2017, qui était de 5000 euros. Donc, vraiment des choses qui sont impressionnantes. Et c'était à cette époque Veolia qui était là-bas, qui à un moment avait 100 millions quelque chose de, comme ça d'excédent et qui quand il est reparti, eh bien est reparti avec l'équivalent de je sais plus combien de millions de déficit, mais un énorme déficit, et donc on ne sait pas où est passé l'argent. Et le secteur de l'eau, c'est dans ce secteur dans lequel il y a eu énormément de corruption, de procès, vraiment avec une main basse qui est dommageable à l'intérêt général et avec une ressource qu'il faut impérativement protéger.
Ouais, c'est sûr. Et du coup, comment tu as décidé de te saisir de cette question ? Qu'est-ce qui a fait que tu avais cette appétence particulière et tu t'es dit, tiens, il faut absolument qu'on enquête là-dessus ?
En fait, ça fait longtemps avec la France Insoumise qu'on travaille sur cette question-là. Loïc, qui est avec moi dans la commission développement durable, donc qui travaille avec moi sur les questions d'écologie, il avait déjà fait deux missions d'information sur la ressource en eau, les conflits d'usage de l'eau. On s'y est beaucoup intéressé aussi parce que il y a beaucoup des révolutions citoyennes dans le monde qui viennent de la question de l'eau. Je sais pas, je vais donner un exemple. Par exemple, le Chili. Le Chili est le premier pays qui a privatisé l'eau. En fait, c'est à l'époque, c'est le dictateur Pinochet qui est en fait, ça a été un peu le pays laboratoire où ils ont fait la privatisation de l'eau. Bon, bah, quel est le résultat à la fin ? C'est que aujourd'hui, dans les 10 villes d'Amérique latine, sur tout le continent, dans les 10 villes d'Amérique latine où l'eau est la plus chère, eh bien, 7 sont chiliennes. Donc, vraiment, on a un enjeu et qui se retrouve voilà, dans plein de révolutions citoyennes qui nous intéressent. Et puis, on avait fait aussi, et ça, c'était super bien, dans notre première niche parlementaire, donc la seule fois dans l'année, on a le droit de déterminer l'ordre du jour, on avait fait une proposition de loi constitutionnelle pour faire rentrer l'eau dans la Constitution et donc faire garantir vraiment un droit inaliénable à l'eau, bon, qui avait été évidemment refusé par la majorité. Mais donc, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse. Et puis, en fait, moi, en ayant bossé sur les questions énergétiques, le nucléaire, qui est une date aujourd'hui importante d'ailleurs, sur les questions de forêt, sur toutes ces questions-là, en fait, tout revient tout le temps à l'eau. Et donc, voilà, ça m'intéressait de prendre ça à bras-le-corps.
C'est super intéressant, c'est sûr. Et du coup, quelle est l'application de la commission d'enquête qu'on explique un peu aux personnes qui nous écoutent après avoir mené vos enquêtes ? Donc déjà, vous allez travailler pendant combien de temps à peu près, combien de semaines, combien de mois?
Ouais, alors en fait, on va rendre un rapport probablement mi-juillet à peu près. Donc okay. On a commencé aujourd'hui et jusqu'à mi-juillet. On va faire des auditions tous les jeudis. Donc pour l'instant, c'est que le matin, mais très vite, ça va être toute la journée. Par exemple, aujourd'hui, on a auditionné 10 personnes. Donc ça fait, on aura le temps de faire beaucoup d'auditions.
Ça dure combien de temps, quoi ? Une demi-heure, les auditions ?
Non, une heure. Wow. Mais de temps en temps, on fait des tables rondes où on a un peu plus de temps. Mais par exemple, ce matin, on avait le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit humain à l'eau et à l'assainissement. On avait, par exemple, Raymond Avrier, qui est celui qu'on appelle le tombeur de Carignan, j'explique. C'est quelqu'un qui était à Grenoble et qui a fait tomber le maire pour corruption, qui est celui qui a ramené la ville en régie publique, donc qui a vraiment beaucoup travaillé sur la corruption des multinationales, sur comment est-ce que concrètement on revient en régie publique et on se réapproprie démocratiquement ce commun. On a auditionné des associations, bien évidemment, sur la question des bassines, sur la France Nature Environnement. On a auditionné aussi un économiste italien qui s'appelle Riccardo Petreia, qui est très connu pour avoir fait plein de propositions justement sur comment est-ce qu'on pouvait avoir une culture de l'eau et un vrai droit à l'eau et pas juste un accès à l'eau, comme il dit. Donc on a eu plein d'auditions. Donc, on va en avoir beaucoup. On va avoir des visites de terrain aussi. Alors, les deux endroits où on a déjà décidé d'aller pour l'instant. Le premier, c'est Vittel, parce que Vittel, donc il y a Nestlé qui pompe de manière illégale dans la nappe phréatique avec des effets désastreux pour les habitants, c'est-à-dire que c'est d'abord l'eau pour le profit avant l'eau pour les citoyens, quoi. Donc on va aller à Vittel là-bas parce que c'est un des cas de privatisation pour le coup et de main basse sur la ressource qui est le plus évident. Et puis on va aller aussi en Guadeloupe, j'en parlais parce que les Outre-mer sont particulièrement touchés et la Guadeloupe c'est un cas d'école, on va dire, sur cette question-là. Et donc on va avoir des auditions, des déplacements. Et l'idée de la commission d'enquête, c'est d'avoir… ces auditions sont publiques, elles peuvent être suivies par tout le monde.
On peut les suivre en ligne aussi, d'ailleurs.
On peut les suivre en ligne, exactement. Cool. Et l'idée, à la fin, c'est de rendre un rapport qui rend compte de ces différentes auditions et surtout, et ça, c'est le plus important, qui fait des recommandations. Et donc, ces recommandations, elles peuvent être d'ordre de ce qu'il faudrait changer dans la loi, de ce qu'il faudrait changer au niveau des ministères, de règles supplémentaires qu'il faudrait mettre dans des contrats, etc., etc. Avec, toujours le fait que c'est une commission d'enquête avec 30 membres de tous les groupes représentés, mais qu'après, c'est évidemment le ministre, parce qu'on est quand même en 5e République, il ne faut pas déconner, c'est pas des parlementaires qui vont faire la loi. Donc, c'est le ministre, le président de la République qui décideront s'ils veulent appliquer les mesures. Mais on va dire que ça aide au combat général.
Pardon Mathilde, pour aller plus loin dans la procédure parlementaire, parce que c'est quelque chose sur lequel j'aime bien insister avec ce podcast, enfin avec le format à Place du Palais Bourbon, parce que c'est l'opportunité de vous avoir et de t'avoir ce soir, c'est de nous expliquer un peu comment ça fonctionne dans les couloirs de l'Assemblée. Typiquement, si toi, tu as envie que ce rapport ne reste pas lettre morte et que si typiquement le gouvernement décide de ne pas s'en saisir, comme tu disais, est-ce que tu peux le transformer en proposition de loi, par exemple ?
Évidemment. C'est des choses qu'on fait souvent. Par exemple, moi, c'est pas moi qui l'avais présidé cette fois-ci, mais j'avais participé à la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire. On avait beaucoup parlé des sous-traitants nucléaires parce que… J'ai le temps de t'expliquer, tu veux que je t'explique?
Je suis passionnée de cette question.
Parce qu'en fait, les sous-traitants nucléaires, en fait, dans le nucléaire aujourd'hui en France, 80% de la maintenance nucléaire est faite par des sous-traitants. Donc déjà, c'est une perte de savoir pour nous. Et puis ensuite, quand on prend un point de vue…
De traçabilité aussi.
Exactement, de savoir, de traçabilité. Bon, c'est comme ça que notamment les plans de l'EPR se sont retrouvés dans la nature. Ça n'a l'air d'effrayer personne, mais il y a quand même des plans de l'EPR qui sont passés dans des mains non habilitées, dans lesquelles on voit la taille des boulons de la porte d'entrée, toutes les caméras de surveillance, tous les systèmes de sécurité.
Et
bon, on continue parce que apparemment ça n'effraie personne alors que c'est quand même incroyablement dangereux. Mais bon, bref, donc c'est sous-traitant. Donc souvent c'est des sous-traitants en cascade en plus. L'EPR par exemple, alors là c'était incroyable.
Engie qui sous-traite aux sous-traitants des sous-traitants.
Alors c'est Orano, EDF, Areva qui vont sous-traiter, sous-traiter en cascade. Mais ils sous-traitent y compris le cœur du métier nucléaire, donc la radioprotection, tout ce qui est logistique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, il y avait eu une chute d'un générateur de vapeur à Paluel, dans la centrale de Paluel. Heureusement, ça n'avait pas donné lieu suite à quelque chose de très grave derrière. On a eu de la chance. Mais en fait, ils avaient montré dans un rapport que c'était lié au fait qu'il y avait une cascade de sous-traitance où les gens avaient prévenu, mais ça n'avait rien donné parce que ça n'arrivait pas jusqu'au donneur d'ordre. Et en fait, le problème que du coup ont ces gens, c'est que ces sous-traitants du nucléaire, du coup, travaillent dans des conditions désastreuses, mais vraiment désastreuses. En fait, on fait ce qu'on fait dans les autres. On augmente les heures, on fait du 60 heures par semaine. Sauf que quand vous faites une activité très sensible, c'est quand même problématique. Deux, c'est eux qui sont le plus exposés puisqu'ils reçoivent 80% de la dose radioactive. Donc, c'est eux qui ont aussi les cancers derrière, les bons. Par exemple, pour repenser à quelqu'un, Jean-Marie, que j'avais rencontré dans une grève pour justement les conditions des sous-traitants, parce que moi, je suis marraine d'une association de sous-traitants nucléaires, je les soutiens vraiment dans le combat qu'ils mènent pour avoir des vraies conditions de travail dignes. Il me racontait, moi, ça fait 39 ans que je travaille dans le nucléaire. Comme ils changent de boîte tout le temps parce que, entre sous-traitants,
des contrats d'intérim, des choses comme
ça. En fait, c'est des contrats d'un temps, mais comme la boîte est rachetée par un autre, et puis de toute façon, ils dépendent. Alors, il y en a qui vont faire pour le même métier. Il y en a qui vont être dans la convention collective de bureau. Il y en a qui vont être dans la convention collective de ménage. Enfin bref, ils n'ont aucun droit. Et donc, lui, par exemple, 39 ans, il était, je crois, à 1 200 € par mois net. Et quand tu lui demandes combien d'années d'ancienneté il a récupéré en 39 ans, zéro. Zéro année d'ancienneté. Et donc, du coup, par exemple, je vais donner un exemple très concret parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait étudié dans la commission d'enquête parlementaire. Et à l'époque, qui présidait cette commission d'enquête parlementaire ?
C'était Barbara.
Madame Barbara Pompili. Ouais. Exactement. Qui, depuis, est la ministre. Et donc, elle était très convaincue. Elle l'avait mis dans son rapport. Elle avait même soutenu un sous-traitant nucléaire qui est président d'une association que je marraine, qui est poursuivi pour avoir juste parlé dans la commission d'enquête, comme sous serment. C'est quand même incroyable. Il est poursuivi pour ça, pour avoir dénoncé les conditions de travail dans les centrales. Depuis que Madame Barbara Pompili est ministre, elle l'a oublié. Elle l'a, mais complètement oublié. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire si, par exemple, ils ne les mettent pas en œuvre ? Déjà, il y a des traces écrites sur lesquelles députés de tous les bords se sont mis d'accord, y compris, du coup, des députés de La République En Marche ont réfléchi à la question. Donc, ça pousse, ça aide au rapport de force. Et nous, l'idée là qu'on va essayer de faire, on va annoncer ça la semaine prochaine, mais c'est qu'on est aussi une campagne d'éducation populaire et donc une campagne massif pour aider sur cette question-là,
bien sûr,
parce que je pense qu'il faut un rapport de force citoyen qui est important sur cette question-là, sinon sinon ça n'avance pas comme d'habitude. Pour contrer les intérêts privés et les intérêts de l'argent, il faut être nombreux et nombreux.
C'est intéressant parce que c'est pas forcément une question dont on parle beaucoup, l'eau. Tu vois, il y a beaucoup de choses dont on parle des ressources, des matières premières, on va parler du gaz, on va parler du pétrole, on va parler de plein de choses. Mais l'eau, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas tant que ça au final. Donc, c'est vrai que c'est super important de la porter un peu sur le devant de la scène et en discuter. Ouais. Bravo.
C'est ça.
C'est un bon projet.
Merci beaucoup.
Oh, c'est chouette. Et du coup, donc cette commission qui, à mon avis, de ce qu'on a compris, va quand même pas mal t'occuper dans les jours à venir, voire les semaines à venir. Donc, ça, c'est super chouette. Et du coup, tu la présides seule ou il y a quelqu'un qui la co-préside avec toi ?
Alors, moi, je suis la présidente et ensuite, il y a le rapporteur, donc celui qui fait avec moi, on va dire ça comme ça, qui, lui, est de La République En Marche et qui est un député de Guadeloupe, Olivier Servin. Donc, on est deux.
D'accord.
On va dire que moi, je suis plutôt sur les questions de préparer qui va être auditionné, d'organiser les auditions, etc. Et le rapporteur, normalement, il est plutôt sur le fond, mais en fait, on fait les deux.
Travailler beaucoup ensemble.
Bien évidemment, voilà.
Puis on essaie. C'est vachement chouette de voir que finalement, sur les questions qui sont aussi importantes, aussi centrales, il puisse y avoir un travail transpartisan. C'est super chouette.
Et j'espère qu'on arrivera à convaincre sur des choses aussi, parce que.
Bien sûr.
Mais oui. Et puis c'est important parce que pour le coup, l'eau, c'est quand même un sujet crucial pour maintenant et puis surtout pour les années à venir et les générations à venir. Donc, ouais. Ah ouais, c'est top. Et puis après, donc j'ai ça. Mais surtout en ce moment, là, j'ai appris qu'ils allaient ouvrir les séances ce week-end. Donc, je vais passer tout mon week-end. Samedi matin, samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin, dimanche après-midi, dimanche soir. parce qu'en ce moment, on est en train d'étudier la loi issue de la Convention citoyenne pour le climat. Enfin, quand je dis ça, c'est un peu… Je ne devrais pas dire ça parce que mais, ouais. On a compté, nous, sur 149 propositions qu'a faites la Convention citoyenne pour le climat. Il y en a 18 qui sont vraiment fidèles et qui sont exaucées. Les trois quarts des mesures sont effacées. Alors, il y en a plein, elles n'existent plus dans la loi. Le moratoire sur la 5G, puisque nous sommes des Amish qui s'éclairent à la lampe à huile, disparu. Il y a plein de sujets comme ça, tout ce qui était sur le ferroviaire, le fait de développer le ferroviaire, disparu. Ouais, et puis après, alors, une stratégie très intéressante qui est de mettre quand même dans la loi, mais alors ça n'a plus aucun intérêt parce que tellement on l'a amoindri, on a repoussé les échéances. Par exemple, j'explique, je vais donner deux, trois mesures, je pense, qui sont assez symptomatiques de ça. La première, c'est la question des zones commerciales. Il y avait des choses pour arrêter, en fait, faire un moratoire, arrêter de bétonner des terres agricoles, notamment pour tout ce qui est zone commerciale, mais aussi les entrepôts logistiques d'Amazon. Parce qu'il y a plein de luttes en ce moment sur des projets où on envoie des camions de partout, etc. Eh bien, c'est dans la loi. Alors là, magnifique. Sauf que les lobbies se sont bien activés. Jeff Bezos, on dirait que c'est lui qui a écrit l'article, parce qu'il a dit moratoire, mais si c'est plus de 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés, ça fait que tous les projets actuels, en tout cas 80%, passent. En fait, ne sont pas concernés par le moratoire. Donc, c'est dans la loi, mais en fait, ça ne change rien. Et Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est content. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, les vols aériens. Interdiction des vols aériens lorsqu'il y a des alternatives sur des trajets de 4 heures. Eh bien, eux, ils ont décidé dans 4 heures, ça concernait trop de lignes. Donc, ils sont passés à 2h30.
2h30, ouais.
Ce qui fait qu'il va y avoir que 3 lignes aériennes qui vont être concernées. Donc, on est très loin de ce que demandait la Convention citoyenne pour le climat. Et pour donner un dernier exemple, pour parler un peu, c'est la publicité. En fait, la Convention citoyenne pour le climat met plein d'assos. Donc, si on demande ça depuis des années, on met des amendements et tout. On demande à ce qu'on interdise la publicité sur les produits les plus polluants, sur la malbouffe pour les enfants, sur, enfin voilà, donc des choses d'intérêt général.
Ouais, bien sûr.
Et finalement, alors on n'a pas d'interdiction des panneaux lumineux qu'on a dans la rue publicitaires qui sont extrêmement énergivores, ça n'est pas touché, il n'y a pas. Donc sur les SUV, sur tout ça, il n'y a pas, enfin bon, il n'y a rien. Mais alors, on a une interdiction des pubs sur les énergies fossiles. Alors, bon, c'est bien d'avoir ça, hein, c'est bien. Sauf qu'en fait, ça n'existe quasi pas. Il n'y a quasi pas de pub sur les énergies fossiles.
Dans la réflexion, justement, est-ce que j'ai déjà vu une pub de Total pour acheter les...
Mais voilà, mais enfin, c'est bien que ça soit marqué dans la loi qu'on l'interdise, hein, parce que de toute façon, il faut... Enfin, voilà. Mais en fait, c'est juste que du coup, ils ont fait un truc pour dire, regardez, on fait un truc sur la pub, donc on respecte la Convention citoyenne pour le climat. Mais en fait, non, pas du tout.
Et du coup, comment ça se passe? Toi, t'es dans la commission spéciale?
Ouais.
Ah, cool. Et du coup, t'as pu déposer des amendements? Parce que j'ai vu que sur Internet, sur Twitter essentiellement, il y avait énormément de députés qui se plaignaient du fait que les amendements avaient été jugés irrecevables sans argument vraiment très précis. Apparemment, le fait que l'amendement ne soit pas rattaché au texte est rarement vraiment vérifié. J'ai vu plein de députés, notamment Mathieu Orphelin, qui s'offusquait de ça en disant mais c'est quand même scandaleux, il y a plein de députés qui justement disent que il y a plein d'amendements qui ont été déclarés irrecevables alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison de les rendre irrecevables. C'est vrai ça? T'as vu ça toi aussi?
Ouais, oui, c'est vrai, nous aussi on a vu ça et nous aussi on mène le combat sur cette question-là parce que en fait il y a plusieurs armes antidémocratiques de la Macronie. Bon, la première, on voit très bien dans ce projet de loi, c'est d'avoir dit à des citoyens qui ont quand même travaillé énormément, de leur dire « vous inquiétez pas, on reprendra ça sans filtre ». Je vois un commentaire qui dit heureusement qu'il avait dit que 3 jokers. En fait, on se retrouve avec des jokers de partout. En fait, un projet de loi qui est un projet de loi d'allégeance au lobby, quoi. Enfin, vraiment, qui a été réécrit par les lobbies entièrement. Donc déjà, on a un mensonge démocratique de la parole présidentielle. Mmh. Ensuite, ce qui est souvent utilisé maintenant à l'Assemblée nationale, qui est quand même délirant, c'est, on avait l'habitude, par exemple, quand on vote, on essaye d'interdire le glyphosate, bah, on nous fait voter à 4 heures du matin, ou alors on nous fait voter les textes un vendredi à 6 heures du matin, comme ça les citoyens ne voient pas trop, et puis on essaie de faire passer ça tranquillement, ou alors quand il n'y a pas trop de gens qui sont là. Voilà, donc ça c'est une deuxième technique. Il y en a une troisième qu'ils utilisent beaucoup, c'est le second vote. Alors là, quand ils n'aiment pas un vote qu'on fait à l'Assemblée nationale, bah, ils nous font revoter le lendemain, le soir même. Comme ça, les députés de La République En Marche, si le gouvernement demande un second vote sur l'amendement, ils comprennent qu'ils ont mal voté la première fois et donc il faut voter différemment la deuxième fois. Donc ça, ils nous ont fait ça sur plein de choses. C'est vraiment délirant. Et donc, une des armes principales, c'est l'irrecevabilité des amendements. Et nous, ça fait quand même longtemps qu'on proteste sur ces manières de faire parce que, en fait, le fait de déclarer irrecevable un amendement, pour que tout le monde comprenne, ça veut dire qu'il n'est plus discuté en séance. Donc, c'est l'impossibilité démocratique d'en discuter.
Et de le défendre, de le présenter. Quoi.
De le défendre, de le présenter. Et donc, on se retrouve avec des textes sur la santé sur lesquels on n'a pas le droit de parler d'infirmières, etc. Et nous, on avait déposé des amendements, par exemple, sur la forêt, qui est un sujet qui me tient très à cœur, qui sont directement des propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat, que nous aussi, on porte par ailleurs. Ben, ils sont tous irrecevables. Donc, dans un projet de loi qui s'appelle « Climat et résilience », on n'a pas le droit de parler de forêt. Il n'y a pas de volet forestier alors que les forêts sont un puits de carbone indispensable. Pareil, moi j'avais déposé plusieurs amendements sur l'eau. Bah, l'eau, ça a disparu. Et je pense qu'un exemple les plus frappants pour vous faire comprendre à quel point c'est délirant, c'est qu'il y a deux manières de déclarer des amendements irrecevables. Le premier, c'est si ça crée une charge. Parce que les parlementaires, on n'a pas le droit de dépenser de l'argent, je ne sais quoi.
C'est absolument absurde. C'est l'article 40 alors.
C'est l'article 40.
Okay, et le deuxième. L'article 40.
Ouais. Voilà. Le deuxième, c'est article 45, on appelle ça, c'est si ça n'a pas de lien avec le texte. Donc, déjà, sur la forêt et l'eau, moi je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique pourquoi ça n'a pas de lien. Et alors, il y en a un que moi j'ai déposé, Mathieu Orphelin l'a déposé, Delphine Bateau l'a déposé, donc on est plein à l'avoir déposé. On a tous été irrecevables, mais alors là, vraiment, c'est délirant. C'est qu'au départ, la Convention citoyenne pour le climat, on leur a demandé de travailler sur moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.
Par rapport à 90, okay. C'est ça.
Voilà, par rapport à 1990. Sauf qu'au niveau de l'Union européenne, est en train de se conclure un accord pour dire qu'il faut rehausser l'ambition et mettre moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.
C'est le tweet de Delphine Bateau là-dessus. Ouais.
Voilà. Bon, alors, la France ne respecte absolument pas ses engagements, mais c'est quand même la moindre des choses quand il y a un texte comme ça qui passe que d'essayer quand même de rehausser l'ambition pour dire bon, là, on est en retard et il faut.
D'anticiper aussi ce qui va.
Voilà. Et puis, il faut une volonté politique pour atteindre ces objectifs. Eh bien, nos amendements qui demandent juste de changer 40% en 55%, qui sera bientôt un objectif caduque, hein, au revoir, 40%, eh bien, sont irrecevables. Et ça, c'est inacceptable, parce que qu'on nous explique que ça n'est pas de rapport avec le texte, c'est impossible. Ouais. Donc oui, la manière dont se passent les débats à l'Assemblée est aussi une manière malheureusement extrêmement antidémocratique, et on a déjà dû protester très vivement pour qu'on nous permette de nous laisser déposer les amendements après que la Convention citoyenne pour le climat note le projet de loi, parce qu'avant, c'était avant. Okay. Donc, tout dans ce projet de loi est fait pour que on avale la
mission qu'ils ont faite. En tant que parlementaire, est-ce que vous avez un recours par rapport à ça?
Le recours, c'est le Conseil constitutionnel, mais après, pour l'instant, on fait des
procès. 60 députés, 60 sénateurs, c'est ça?
Ouais.
Soit l'un, soit l'autre.
Exactement.
Toujours ça.
Donc c'est ça le recours, c'est le Conseil constitutionnel. Et puis après on fait des protestations et surtout on leur demande de nous expliquer. Dites-nous pourquoi vous l'avez jugé irrecevable. Et là pour le coup ils savent pas trop expliquer.
Ouais, non, mais c'est dingue quand même. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Ça fait longtemps que je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la question de l'irrecevabilité et le fait que finalement ce soit assez arbitraire comme analyse, tu vois, examen des amendements. Il faudrait quand même permettre un recours aux parlementaires, peut-être devant le président de l'Assemblée nationale ou auprès des administrateurs qui sont censés un peu plus connaître la procédure. Enfin, c'est quand même curieux et presque inadmissible qu'il n'y ait aucun recours, sauf le Conseil constitue, alors que c'est quand même a posteriori, en plus, le Conseil constitue.
Bien sûr.
Sais, le problème de la du fait de déclarer un amendement irrecevable, c'est que vous n'avez même pas la possibilité de le présenter. Rien que ça, c'est super important, en fait.
Ouais. Non, mais c'est enfin, honnêtement, ça s'est beaucoup aggravé ces dernières années, vraiment beaucoup aggravé. Enfin, ils ont vraiment resserré la vis sur cette question-là. Et vraiment, ça pose un problème démocratique qui est évident. C'est, enfin, vraiment, on se retrouve plein de fois avec des impossibilités de parler de sujets qui sont pourtant tout à fait dans le thème, mais en fait qui les arrangent, qu'on ne parle pas de ça. Par exemple, sur la forêt, on a réussi à faire des choses vraiment en transpartisan, notamment sur la question des coupes rases, sur la question du bon état écologique des forêts, sur la question du service public forestier. Et donc, bah, ils n'ont pas envie qu'il y ait le débat, parce que notamment la dernière fois, en projet de loi finance, on avait gagné un amendement en transpartisan sur la question des effectifs du service public forestier. Ils étaient revenus avec un second vote, mais ils ont peur que ce débat ait lieu, y compris. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent le perdre, en fait.
Ouais, même avec leur
donc, mais c'est des armes qui sont oui, c'est antidémocratique. Enfin, je pense qu'on peut... Moi, j'étais dans une classe, la dernière fois, juste pour te le dire, j'étais dans une classe, donc avec des petits minots, on parlait écologie et tout, c'était super bien, alimentation, ouais. Et alors bon, je leur expliquais la composition de l'Assemblée, je leur fais faire un débat sur un thème, ils avaient fait une petite proposition de loi, donc je leur faisais le débat en leur disant, bon bah vous représentez un tel, vous êtes pour, vous, ouais, alors c'est quoi vos arguments, etc. Puis à la fin, je leur dis, bon bah on vote, donc je suis à peu près là, bon, pour représenter qu'eux, ils aient la majorité absolue, quoi. Ils disent, bah ouais, mais on n'avait aucune chance. Bah je leur dis, oui, c'est vrai, mais c'est la composition, bref, après je leur parle de la composition sociale et tout. Mais je me disais devant les mots, moi je peux pas leur dire qu'on fait des seconds votes, je peux pas leur dire qu'on nous enlève nos amendements et tout, parce que là ça commence à être beaucoup. Mais en fait c'est quand même la réalité de ce qu'on vit à l'Assemblée, et c'est quand même la preuve de ce qu'on dénonce là aussi, et qu'il va falloir absolument changer, qui est que bah on est dans une Ve République qui concentre déjà tous les pouvoirs sur le président, mais en plus en ce moment de crise sanitaire où tout est pris en conseil de défense, en secret défense,
c'est clair,
et où vraiment on est enfin dans une Ve République où le Parlement est méprisé comme il n'a jamais été méprisé. Enfin, j'avais un collègue parlementaire qui me disait, mais Mathilde, j'aurais aimé que tu sois parlementaire il y a 10 ans, il y a 15 ans, t'aurais vu la différence, en fait. Donc, y compris les vieux de la veille et qui sont là depuis longtemps, eux, ils s'en rendent compte vraiment. Donc, il y a vraiment un enjeu à...
Je me faisais la réflexion il y a quelques jours, je me disais, finalement, en ce moment, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant quand tu es député de faire partie de l'opposition ?
Oui, probablement, parce que si tu es... Après c'est aussi des questions de courage politique et de rapport de force, quoi.
Oui, c'est clair.
Moi, j'ai eu le débat souvent avec des députés qui étaient pas forcément d'accord avec des choses qui étaient faites par le gouvernement.
Ouais.
Et à la fin, ils votent pas contre. Et en fait, ils pourraient voter contre, y compris parce que ça aiderait dans des rapports de force sur des choses. Il y en aurait très bien qui auraient pu partir, par exemple, beaucoup plus au MoDem, pour dire, bon, bah, nous, là, au moins, au MoDem, on a une liberté de vote que vous ne nous donnez pas à La République En Marche, parce qu'on aurait fait pression dessus. Donc, il faut aussi accepter les rapports de force, en fait, c'est ça. Voilà, accepter que, il y a des arguments qui sont donnés d'un bout à l'autre. Mais en tout cas, moi, je suis très heureuse d'être dans l'opposition, vu ce qu'on fait comme politique au niveau gouvernemental et présidentiel.
Non, c'est intéressant, c'est clair, c'est clair. On va parler de toi, justement, si tu veux bien. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Comment t'es arrivée là ?
Alors, un peu sans le choisir directement. Alors, je suis très heureuse d'être députée, mais en fait, moi, au départ, j'ai commencé par l'associatif. Donc moi, au départ, j'avais un militantisme associatif, beaucoup sur des questions de lutte contre la misère, la pauvreté. Et en fait, petit à petit, bon, j'avais pas mal de potes qui étaient très politisés quand même, donc avec qui on parlait souvent politique. Et mon premier boulot, c'était à Grigny. Donc Grigny, c'est la ville la plus pauvre de France. Il faut imaginer, hein, le quartier où moi je travaillais, c'est un quartier qui s'appelle la Grande Borne, qui est un quartier de 13 000 habitants, qui est séparé du reste de la ville par l'autoroute, dans lequel SOS Médecins ne veut plus venir depuis 1994. Vous ne pouvez pas vous faire livrer un colis. Vous ne pouvez pas retirer d'argent. Il reste quasi aucun commerce. Il reste un boulanger, un pharmacien parce qu'il est militant. Mais sinon, vous n'avez plus rien. Et vraiment, des situations de misère et extrêmement fortes. Et en fait, Grigny, à la fois, moi, j'adorais ce que je faisais en tant qu'associative là-bas. Et en même temps, un jour sur deux, moi, j'avais aussi une boule de rage, en fait, en revenant du boulot. Parce que moi, je n'accepte pas que dans la sixième puissance économique au monde, eh bien, on laisse des personnes dans des situations d'indignité totale, pendant que les riches se gavent bien, eux, tout va bien pour eux. Et voilà, moi, ça, c'est quelque chose qui me remue profondément les tripes, que je trouve profondément injuste. Et autant en association, on faisait des trucs super chouettes sur plein de choses, autant bah, ça ne changeait pas pour tout le monde. Et moi, j'ai commencé à faire de la politique au départ parce que j'avais envie que ça change pour tout le monde, parce que j'avais envie et bien que la société, elle change et qu'elle ne change pas juste à un endroit où bah, y a des choses qui vont se créer et puis d'autres qui vont régresser. Mais de dire que oui, en fait, on a la possibilité, on n'est pas condamné à vivre toujours plus mal, qu'on a la possibilité... de vivre bien ensemble, en respectant les besoins fondamentaux de tout le monde. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la politique. Donc, je me suis engagée, bon, j'écrivais des petits articles, je distribuais des tracts.
Tu t'es engagée sous quelle étiquette en premier, alors ?
Alors, au départ, c'était Front de Gauche. Non encarté, mais au Front de Gauche. Donc, c'était dans mon université, donc je faisais des tractages, etc. Et puis, quand je bossais à Grigny, en fait, on est venu me proposer de faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc, je militais déjà pas mal à l'époque. Je faisais des argumentaires sur des choses, etc. Et donc, j'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon.
Et quelle année, ça ?
Alors, 2016-2017.
OK.
Donc, en février 2016, j'ai quitté Grigny et j'ai été faire la campagne de Mélenchon. Et donc, je faisais... Ah, je m'entends double. Ah non. Et donc, je faisais notamment à la fois tout ce qui était structuration du mouvement de la France insoumise sur le territoire, donc les groupes d'action, les moyens de militer, qui sont autres que donner juste un tract, justement, mais d'avoir des choses un peu plus d'éducation populaire plus largement. Et puis, j'ai notamment mené la campagne d'égalité des droits, donc qui était des caravanes, qui ont sillonné toute la France pendant toute la campagne. On a fait 107 quartiers populaires, dont certains plusieurs fois, et calé dans les quartiers pop pour faire à la fois de l'accès à la citoyenneté sociale et politique, c'est-à-dire de l'inscription sur les listes électorales à un moment où l'État refuse de le faire depuis 2016. Donc, on a quand même 3 millions de gens qui sont non inscrits et 6,5 millions de gens qui sont mal inscrits. Et moi, j'accepte pas que dans mon pays, on en arrive à une sorte de vote censitaire où, en fait, seuls les plus riches, parce que c'est aussi comme ça que ça se décline, en fait, souvent les plus pauvres qui sont pas inscrits, c'est souvent les plus précaires, les plus peuvent voter. Et donc moi, ça me tenait à cœur que tout le monde puisse décider de l'avenir, l'avenir commun qu'on veut avoir ensemble, parce qu'après tout, la politique, c'est ça, hein, c'est comment est-ce qu'on vit ensemble. Et puis, il faisait aussi de l'accès aux droits sociaux. Donc, on faisait de l'information sur les droits sociaux avec des gens qui ont découvert qu'ils avaient droit à des aides et tout ça. C'était assez génial, notamment parce que c'était le moment. Enfin, bon, ça n'a pas vraiment arrêté depuis, mais où on racontait que les pauvres étaient des fraudeurs. C'était pour nous l'occasion aussi de rappeler que non, en fait, il y a plein de gens qui n'accèdent pas à leurs droits et que c'est un scandale dans une république sociale comme la nôtre. Absolument. Donc, voilà, je faisais des choses comme ça. Et puis arrive le moment où on va choisir nos candidats aux législatives, donc pour l'Assemblée nationale. Et moi, je voulais pas y aller, quoi. Enfin, j'avais le truc de meuf, de j'y arriverai pas, de bon.
Ah ouais.
De comment on a socialisé aussi les meufs. Donc bon. Et puis les copains à Ivry notamment, mais pas que, dans les différentes villes, m'ont dit si Mathilde, c'est toi qui vas y aller. Et moi, vraiment, je pensais y aller pour représenter nos idées. Donc, on a fait une super campagne de porte-à-porte. On faisait ça donne la nostalgie, ça. On faisait des apéros dans la rue tous les soirs. Donc, c'était vachement chouette. Donc, on a fait vraiment une immense campagne de terrain. Et vraiment, moi, j'y allais pour que les copains soient fiers, pour que nos idées soient bien représentées. Et puis, en fait, on a gagné. Donc, c'était la première fois de ma vie quand même que je gagnais une élection. Ah, c'était super. Non, et puis y compris parce que souvent dans nos histoires politiques, on perd, nous. Donc rappeler qu'en fait, non, on peut gagner. On peut gagner des choses. C'était super. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue députée. Alors que, voilà, je n'avais jamais rencontré une députée de ma vie ou un député de ma vie avant, que j'avais pas trop idée de comment j'allais faire. À l'Assemblée, et je crois que c'est une bonne preuve, et le groupe parlementaire en général, moi ça me tient à cœur, de dire et de redire que voilà, que tout le monde peut être député, et que c'est une fonction député, c'est pas un métier, et que tout le monde a des choses à porter pour l'intérêt général et pour la collectivité, tout le monde a plein d'idées, et je crois que c'est intéressant qu'on soit plein de nouveaux élus dans notre groupe, qui y compris, une aide-soignante par-ci, quelqu'un qui était dans un call center... à EDF avant, quelqu'un qui était au RSA activité, de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir fait telle ou telle étude, qu'on n'a pas besoin d'avoir tel ou tel métier ou d'avoir été élu 150 ans avant, et que on peut tous inventer aussi c'est quoi le rôle d'élu et comment est-ce qu'on veut eh bien, servir l'intérêt général. Donc voilà
une
comment je me suis
anecdote, devenue députée. Une petite anecdote peut-être sur ton arrivée à l'Assemblée nationale, genre le premier jour, un truc dont tu te souviens qui t'a fait rire.
Ouais. Bah, premier jour, c'était hyper émouvant. On s'est retrouvé avec tout le groupe parlementaire donc devant l'Assemblée, avant d'entrer dans l'Assemblée pour aller faire les différentes démarches qu'on devait faire. Je me rappelle qu'il y avait une militante du 20e que je connaissais bien, du 20e arrondissement de Paris, qui est arrivée en pleurant. Mais je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures, José? Et elle me dit, mais tu te rends pas compte, j'ai attendu ce jour toute ma vie, tu te rends pas compte à quel point c'est incroyable. Donc on a un peu pénétré aussi, à la fois par la responsabilité qu'on a, et puis par bon voilà, pour tout ce que ça veut dire aussi, pour tous les gens qui, enfin, nos idées rentrées à l'Assemblée, quoi. C'est quand même, et puis rentrer assez magnifiquement. On était un groupe de 17, enfin, donc c'est bien. Donc c'était un moment très émouvant. Après, je me suis fait très vite rattraper par le fait que j'avais 28 ans, que j'étais une femme et que j'avais pas vraiment l'air d'une députée, parce que à chaque fois qu'on passait, tout le groupe passait, puis moi, il me disait, vous avez pas le droit de passer, c'est que les députés. J'étais là, moi aussi, je suis députée, en fait. Ouais. Donc voilà, mais qui était pas méchant, mais qui était quand même le fait qu'on correspondait pas du tout. Enfin, moi, je me rappelle de quelqu'un qui me dit, ah non, mais excusez-nous, hein, c'est juste que, ben, vous avez vraiment l'âge d'habitude des collaboratrices, en fait. Donc, on n'a pas l'habitude de voir des députés.
Tu bouscules un peu les règles, c'est pas mal.
Voilà, exactement. Et puis, après, il y a plein de choses, du coup, plein de choses, quoi, qui se passent. Le premier discours à la tribune, la première fois qu'on rentre dans l'hémicycle. Alors
c'était quoi ton premier discours, tu t'en souviens?
Ouais, je m'en rappelle, c'était sur les ordonnances travail. Okay. Et j'avais fait un discours d'un quart d'heure. Et quand je suis descendue de la tribune, on m'a demandé si c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait écrit mon discours. Ce qui est horriblement sexiste, mais qui veut dire aussi que il y avait un petit moment où les macronistes étaient impressionnés, parce qu'ils pensaient que Jean-Luc Mélenchon était un homme très seul. Alors que c'est pour le coup quelqu'un qui aime beaucoup transmettre et qui est un des rares hommes politiques qui forme vraiment des gens, enfin qui fait monter des gens, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est intéressant sur la transmission, pour dire que voilà, nous dit souvent, vous êtes héritier d'une histoire très longue qui est bien plus longue même que notre vie, que votre vie, que bon, et puis aussi la preuve qu'ils étaient impressionnés de voir qu'en fait, ben, on tenait la route, quoi. Et ça parce qu'au départ, on nous a regardé un peu avec du mépris, genre on n'appartient pas à ce monde-là, quoi. Donc donc ça, c'était mon premier discours. Et puis je me rappelle aussi donc de nos premières questions au gouvernement, où à l'époque, donc, le règlement stipulait qu'il était obligatoire de porter une cravate, ce qui ne concerne pas tellement les femmes sur cette question-là, quoique on pourrait aussi en porter, mais en tout cas, donc, il concernait surtout donc, les hommes députés, de savoir qui étaient obligés de porter la cravate. Pas pour les femmes, il n'y avait rien pour les femmes sur cette question-là. Et donc, se pose la question, est-ce qu'on porte la cravate ou non? Est-ce qu'on va nous laisser rentrer dans l'hémicycle si on ne porte pas la cravate? En même temps, ça fait chier de porter la cravate parce que c'est un vieux truc qu'on nous impose, qui est un truc hérité, mais qui, ouais. Voilà. Et donc, nous sommes allés sans cravate dans l'hémicycle, et c'est la première fois que je suis rentrée pour siéger dans l'hémicycle. Voilà. Mais après, c'est le début. Après, c'est super d'être députée. C'est un très, très beau mandat. Ouais. Déjà parce qu'on peut saisir de plein de sujets. On rencontre plein de gens. On est certes dans une assemblée qui malheureusement est très antidémocratique, avec une hyper macronisation, une hyper présence d'un président, bon, qui laisse pas beaucoup d'espace, mais c'est un bel endroit, voilà, pour porter les idées. Et moi, un des trucs qui m'a beaucoup touchée à partir du moment où on a été élu dans l'assemblée, c'est qu'on a des retours de plein de gens, de plein de militants de chez nous qui jusqu'alors n'avaient jamais regardé l'Assemblée nationale de leur vie, ouais. Et qui d'un coup, en fait, ont commencé à regarder les débats, à s'intéresser à ce qui se passait. Et ça, je trouvais ça super comme manière. Enfin, nous, on avait essayé de théoriser, on essaie toujours de garder ça, de toujours faire le lien entre le dedans et le dehors, c'est-à-dire de porter les luttes de l'extérieur à l'intérieur de l'Assemblée et de porter ce qui se passe à l'Assemblée nationale aussi au dehors. C'est pour ça qu'on essaye, voilà, d'utiliser beaucoup les réseaux sociaux, d'expliquer ce qui se passe. Ça contribue aussi ce soir, ce qu'on est en train de faire, voilà.
Absolument.
Et je crois que c'est important aussi parce que on est des représentants du peuple, et c'est le peuple qui garde le pouvoir dans ce pays. Et donc, c'est important qu'on ne soit pas dans notre petit palais doré enfermé.
Il y a quelqu'un qui nous suit et qui demande si tu serais partante pour renouveler l'aventure.
Pour me représenter ? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
T'as dû te poser la question déjà, parce que c'est dans un an.
Ouais, mais je me pose la question, mais j'ai pas encore abouti à une réflexion. Ouais. Non, il y a un côté qui est super dans le mandat, qui fait qu'on a envie de continuer à mener la bataille. Il y a un côté aussi qui est très intense personnellement quand même, de travailler tous les jours, tout le temps.
Bien sûr.
Voilà. Mais moi je me plains pas, parce que c'est une très belle place de combat et j'espère moi mon but c'est de mener mon mandat le mieux possible et que de porter les combats collectifs qu'on a au mouvement et de représenter vraiment celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de voix dans notre société. Et donc on verra, mais en tout cas je continuerai dans tous les cas le combat, ça c'est une évidence, d'une manière ou d'une autre. Et puis bon, nous après on est favorable à ce que on ait une rotation des mandats aussi, parce que c'est important pour que mes deux mandats ça passe encore. Donc on verra.
Petite question que j'avais envie de te poser. Quelle est ta plus grande fierté en tant que députée jusqu'à présent?
Ah, j'en ai beaucoup.
Réussite, si tu préfères.
Je vais faire par différents moments, parce que j'arrive pas à en sortir qu'un.
Ok, on peut en sortir plusieurs.
Ok, mon plus beau combat, je crois, vraiment. C'était le combat contre la réforme des retraites avec les salariés de la RATP. Parce que tous les matins, tous les deux matins, ça dépendait, on se levait à 4 heures du matin pour aller les rejoindre sur le piquet de grève et on restait jusqu'à 8 heures avec eux. Et quand vous faites 2 mois de grève avec des gens qui n'ont pas de salaire, qui sont là tous les matins très tôt et avec qui vous discutez tous les matins très tôt, ben, y a des liens assez magnifiques qui se créent. Je me rappelle de plein de... Voilà, de plein d'initiatives de solidarité qu'il y avait, et puis de plein, voilà, il y avait des profs qui venaient, il y avait des cheminots qui venaient pour les aider. Enfin, il y avait une espèce de moment où on sentait qu'il y avait plein de choses qui pouvaient bouger, comme les gilets jaunes en fait, où on a l'impression qu'il y a des choses qui peuvent basculer. Et moi, je garde vraiment de ces matins-là un souvenir et des liens militants très forts. Et je crois que ça c'est vraiment un combat que je suis vraiment très fière d'avoir mené avec eux, d'autant plus que en fait on le dit pas parce que ça peut revenir, mais il n'empêche qu'il faudrait quand même le dire, nous avons gagné la bataille sur la réforme des retraites pour l'instant, puisque si nous n'avions pas mené la bataille, elle serait passée avant le début de la pandémie, et si elle était passée avant le début de la pandémie, il faut quand même comprendre que ce qu'ils vous proposent avec la retraite à points, ça voulait dire que votre retraite est indexée sur la situation économique du pays. Donc, comme vous voyez la situation économique de la France aujourd'hui, c'est-à-dire assez catastrophique sur plein d'aspects, ça veut dire des millions de retraités qui auraient vu leur pension baisser parce que il fallait baisser, ne pas garder un niveau de dépense, comme ils disent, qui est en fait juste la dignité des gens, trop fort sur les retraites. Donc ça c'est une grande fierté d'avoir mené ce combat avec eux. Après, il y a des grands bonheurs. Par exemple, ce que j'ai fait sur Poissonnière, c'était un grand bonheur. Parce que il y avait tout l'aspect, on a réussi à le faire sanctionner, etc. Ce qui est assez historique pour le RT quand même.
Non, mais en plus, c'est un crié, quoi. C'est un jeune mec.
Ouais.
Tu vois, quand j'ai entendu ça, j'étais OK, c'est qui le vieux con, qui sort ça? Et en fait, quand tu te rends compte que c'est un mec qui est même plus jeune que moi, je crois, c'est terrible.
Ah ouais, c'est terrible.
Je dis pas que ça excuse le fait qu'il soit vieux.
Non, mais ça donne un peu plus d'espoir.
Limite,
quoi.
C'est encore pire quand c'est quelqu'un qui est encore plus jeune que toi ou qui a à peu près notre âge. La mince, quoi. Qu'est-ce qui se passe?
Mais du coup,
c'est clair.
Mais du coup, qu'on ait réussi à le faire sanctionner, ça, c'est déjà une victoire qui est importante parce que c'est très très rare.
Ouais.
Mais surtout, le truc, c'est pas une fierté personnelle, mais c'est une fierté pour. J'ai vraiment eu de la chance en fait de rencontrer cette femme, parce que au-delà de l'insulte sexiste, il y avait quand même un mépris de classe très fort et un mépris d'un métier, poissonnière.
Absolument.
Et donc j'ai été passer une journée avec une poissonnière dans le Morbihan. De 1h30 du matin jusqu'à 14h, ce qui est son rythme habituel depuis 32 ans. Alors, se lever à 1h30 du matin depuis 32 ans, il faut imaginer le courage de cette femme. Et donc, on a été à la crier, après, on a été faire la tournée, etc. Et voilà, c'est une femme géniale. Parce que voilà, qui a vraiment une éthique très forte en essayant de privilégier seulement la pêche côtière. Elle prend pas de poisson d'importation. Elle fait attention à la saisonnalité des produits. Donc elle est vraiment, elle fait vraiment son métier très à cœur. Et puis qui fait du social dans des milieux ruraux où il y a rien quoi. Donc elle fait une tournée, elle va dans des petites impasses.
Un peu comme les métiers de l'époque quoi.
Ouais, exactement. Et puis elle me raconte une famille qui arrive plus et qui lui dit bon bah écoute Patricia, tu passeras plus la semaine prochaine parce qu'on a plus l'argent pour payer le poisson. Puis elle leur dit ben non en fait, vous avez 3 enfants, vous mangez du poisson, donc je reviendrai la semaine prochaine. Et puis le jour où vous pourrez payer de nouveau, vous me direz ah, je te dois combien aujourd'hui Patricia. Et donc du coup cette femme elle a donné à une famille entière du poisson gratuit pendant 4 mois en fait. Et voilà, et en fait ça me fait plaisir d'avoir mis en avant aussi le courage de toutes ces femmes qui font des métiers très très durs.
Absolument.
Qui sont d'une importance capitale pour les petits commerces, la vie quotidienne, mais aussi pour le lien social qui reste entre les gens. Et voilà, là où je me sens fière, c'est d'avoir réussi à travailler avec plein de gens et à pousser des sujets, alors qu'on n'a pas forcément gagné, mais en tout cas qui sont des cailloux dans des chaussures comme ça à chaque fois. Voilà, avec des gens qui sont assez formidables, parce que les gens qui se battent sont toujours des belles personnes. Et puis, pour rajouter une dernière chose qui est un travail un peu invisible que font les députés et que moi qui me tient à cœur, c'est tout le travail aussi en lien avec les citoyens de la Circo notamment, mais pas que, de tous ceux qui ont des problèmes de logement insalubre, de papier. Et en fait, là-dessus, on a gagné plein de choses. Voilà, on a vraiment gagné plein de choses. Il y a plein de gens dans la Circo qui ont eu des papiers, des gens qu'on a réussi à faire déménager. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais quand on y arrive, c'est quand même un vrai, vrai, vrai bonheur. Là, il n'y a pas longtemps, on a réussi à arracher d'un voyou propriétaire qui les menaçait tous les jours, une famille, et les mettre à l'abri avec les 2 enfants en situation de handicap dans un appartement. Et ça, c'est des grands moments de bonheur, en fait, d'arriver à ce que ça change. Je me dis, on voudrait que ça change pour tout le monde, parce que ça serait quand même vachement mieux. Mais voilà, en attendant, on fait aussi notre part là-dessus.
Bien sûr, non, c'est super, bravo. Et un regret ? Quel serait ton principal regret pendant ces 4 ans ?
Un regret, c'est d'avoir été députée pendant le temps de la Macronie. Enfin, c'est quand même la première fois depuis Napoléon, je crois, qu'on a une majorité aussi forte, absolue aussi forte. Ce qui crée mécaniquement un truc, hein, c'est qu'avant, ils avaient des majorités, mais pas aussi fortes que celles-ci. Et les majorités, elles étaient avec d'autres groupes, donc il fallait négocier des choses. Et donc, il y avait quand même une culture de la négociation. Ton amendement, là, il passera pas parce que nous, on donnera une consigne de vote contre. Mais celui-là, on peut le discuter. Avoir un minimum de débats démocratiques avec un peu de hauteur, des choses comme ça. Là, c'est pas vraiment ça. De toute façon, quoi qu'on dise, ils s'en foutent, ils font voter et puis ils ont le nombre qu'il faut. Donc, ils peuvent nous rouler dessus, nous marcher dessus comme ils veulent. Et ça, c'est un côté quand même très, très frustrant.
J'imagine, ouais.
Même si, nous, on les emmerde quand même bien parce qu'on arrive justement à faire sortir aussi ce qui se passe dans l'Assemblée, et ça les emmerde un peu parce que certains députés macronistes aimeraient être dans un conseil d'administration où leurs votes ne sont pas publics. Ils trouvent ça scandaleux qu'on les affiche pour dire qu'ils ont voté pour le glyphosate, pour le traité de libre-échange, contre, pour la réforme des retraites absolument terrible, etc., etc. Eh bien, nous ne sommes pas dans un conseil d'administration, c'est la démocratie. Et donc, les votes sont publics, ouais, et c'est comme ça.
C'est tout, quoi, en fait.
Voilà, exactement. Donc, non, mais j'en aurais peut-être d'autres, des regrets, mais c'est... Enfin, je pourrais en avoir d'autres. On manque de temps pour s'occuper de tous les sujets dont il faudrait s'occuper dans un groupe à 17, voilà. Mais quand même, le fait d'être député sous Emmanuel Macron, je pense que c'est le président le plus autoritaire qu'on ait eu de la Ve République. Donc, c'est quand même assez, assez particulier. Voilà.
J'imagine. C'est intéressant. C'est un challenge, quoi.
Mais 2022 arrive.
C'est vrai. Écoute, Mathilde, je crois qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Je ne veux pas te retarder, parce qu'il me semble qu'on avait dit 45 minutes avec Elmi. C'est même pas l'heure, il est là, j'ai pas le...
Il est 20h, mais ça recommence à 21h, c'est bon, j'ai le temps de retourner à l'Assemblée nationale, tout est
cool. Cool, écoute, je te remercie beaucoup, c'était un super live.
Eh bien, merci à toi.
D'échanger avec toi. Eh ben... Il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et puis, je précise que cet entretien sera bientôt disponible en podcast sur Place du Palais Bourbon. Donc, vous pourrez le réécouter et le partager si vous le souhaitez.
Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, merci particulièrement à toi. Et bon courage pour la suite. À bientôt.
Très belle soirée. Merci, Mathilde. À bientôt.
Merci.
Bye bye.
C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.